Comment est-ce qu'on passe, tu vois, de la survie à la destruction de la Terre par des extraterrestres, des bureaucrates de l'espace, à la lutte complètement viscérale d'un enfant aveugle qui essaye juste de déchiffrer une équation de maths?
Ouais, c'est un grand écart qui donne un peu le vertige, c'est clair.
Grave, et c'est exactement le sujet de notre plongée d'aujourd'hui. On va décortiquer un récit hybride super fascinant qui mélange en fait une autobiographie très intime avec le cadre de la science-fiction.
Tout à fait, et plus particulièrement l'univers du guide du voyageur galactique, donc le fameux H2J2.
Voilà. Et dès les premières pages, on n'est pas du tout... Enfin, c'est pas un essai médical ennuyeux ou un témoignage larmoyant, quoi.
Non, pas du tout.
Décortiquons un peu tout ça. Comment il atterrit dans cette galère ?
Ce qui est fascinant ici, c'est que cette prémisse narrative, c'est pas juste pour faire joli ou pour le style.
Ah bon ?
Non, c'est vraiment une clé de lecture psychologique super puissante. Avant même de parler de la réalité terrestre, le texte s'attarde beaucoup sur l'état d'esprit de l'acteur, de Ford.
Ouais, quand il se réveille après la destruction de la Terre, c'est ça ?
Exactement. Il regarde sa montre, qui est en fait reliée à un générateur d'improbabilité, et elle affiche un chiffre hyper précis. 1 sur 87 564 897.
C'est précis, en effet. Hein.
Ouais. Et ce chiffre, c'est pas juste un gag de SF, ça représente cette probabilité infime, ce hasard mathématique complètement froid et absurde, qui fait qu'une tragédie, ou ici un handicap sévère, ça tombe sur une personne plutôt qu'une autre.
Genre, il n'y a pas de grand plan cosmique caché ou de leçon karmique, c'est juste, paf, la probabilité tombe sur toi, quoi.
Voilà, c'est la loterie. Ce qui annule tout de suite la fameuse question du « pourquoi moi ?».
Mais du coup, avant d'arriver sur cette fameuse scène de théâtre sur Terre, Ford, il passe par une grosse phase de déni, non ?
Ouais, complètement. Il est licencié du guide pour motif économique, l'ironie quoi, et il atterrit sur la planète Lamoala.
Ah oui, le passage avec les sandwichs. Il fabrique à la chaîne des sandwichs à la viande de bête parfaitement normale.
C'est ça. Et cette bête parfaitement normale, c'est une métaphore incroyable. C'est l'injonction sociale à la normalité.
C'est-à-dire ?
Quand on subit un traumatisme physique massif, la première tentation, c'est de s'accrocher comme un malade à une routine absurde, tu vois. Juste pour faire comme si de rien n'était, pour se fondre dans la masse des gens soi-disant normaux.
Ouais, faire semblant que tout va bien jusqu'à ce que Zaphod Beeblebrox lui envoie une lettre pour l'inviter sur Magrathea.
Et c'est là que le destin le rattrape, ouais. Au dernier restaurant avant la fin du monde, il tombe sur l'animateur Max Quardelplin, qu'il pousse sur scène. Et l'entrée en scène est violente.
Restrictif, c'est fait en silicone et en roche, un truc comme ça.
Un prototype inachevé, oui. Ça simule un corps humain, mais il manque l'œil gauche et le nez est déformé.
C'est fou de le décrire comme ça. Ford a des connaissances infinies sur toute la galaxie, et d'un coup, bam, il est prisonnier de cette interface défectueuse.
Exactement.
Du coup, en lisant ça, elle est tout de suite pensée, imaginons un instant qu'on est coincé dans un casque de réalité virtuelle complètement scellé.
Oh, j'aime bien l'analogie.
Mais tu vois, ton esprit tourne à 100%, mais les capteurs visuels du casque ont été bridés par le constructeur. Et le retour haptique dans les manettes, il est plein de bugs.
Ouais, tu dois interagir avec un monde en 3D, mais à l'aveugle.
C'est ça, exactement. Tu dois réapprendre toutes les règles du jeu avec juste l'audio et le toucher, alors que tous les autres joueurs autour de toi ont le dernier équipement ultra performant. Mais ça m'amène à une question.
Vas-y.
Est-ce que cette séparation constante entre l'acteur, Ford, et le personnage Jean-Philippe, est-ce que c'est pas juste un moyen d'éviter d'affronter la réalité frontale du handicap ? Genre une forme de fuite, quoi.
C'est une question super légitime, on pourrait croire ça. Mais le texte montre vraiment l'inverse. C'est pas une fuite, c'est une technique de survie psychologique absolue, la dissociation.
Dissociation, donc séparer le corps de l'esprit ?
Oui. En considérant le corps comme un simple costume mal taillé, l'auteur protège son identité profonde. Le handicap ne touche pas l'acteur à l'intérieur, il limite juste les mouvements du personnage sur la scène.
Ah, je vois. Donc ça permet de ne pas le prendre comme une malédiction personnelle.
Voilà. Ce sont juste des contraintes techniques imposées par le metteur en scène cynique. Tu dois faire avec. Et la toute première contrainte, c'est de reprogrammer son cerveau pour comprendre le décor.
Ce qui nous amène direct à l'apprentissage concret. Il y a ce passage sur le braille qui m'a scotché.
Ah oui, avec les boîtes d'œufs.
Ah ouais. Il raconte comment Jean-Philippe apprend le braille avec des boîtes de 6 œufs parce que ça simule les 6 points d'une cellule braille et en met des balles de ping-pong dedans pour former les lettres.
C'est brillant de simplicité, en fait.
Mais carrément. C'est fascinant de voir comment un truc aussi abstrait que le langage doit être traduit dans une réalité physique et tactile hyper concrète juste pour que le casque vert puisse envoyer l'info au cerveau.
Ouais. Mais bon, Si s'adapter au matériel, c'est un énorme défi, on se rend vite compte que le vrai bug du jeu, c'est pas le costume de Jean-Philippe.
Ah non, ce sont les autres joueurs sur le serveur.
Exactement. Le narrateur les appelle d'ailleurs les bipèdes, avec un ton un peu anthropologique et super détaché.
Les bipèdes, ouais. Et dès que Jean-Philippe cherche à être un minimum autonome, il se prend le mur de ses autres acteurs en pleine face.
On s'attendrait à ce que la société veuille, instinctivement, tu vois. Mais le texte déconstruit ça. Sous couvert de protection bienveillante, la société entrave constamment.
C'est-à-dire ?
Cette bienveillance cache en fait un besoin hyper ancré de maintenir la personne handicapée dans une position d'infériorité, parce que c'est rassurant pour eux.
Ah ouais. Et l'exemple de l'école est juste effarant là-dessus. Déjà, les maths, ça devient un cauchemar parce que le système refuse de sortir de sa pensée visuelle.
Ouais, tout est pensé pour les yeux.
Mais le pompon, le sommet absolu de l'absurdité, c'est cette épreuve de physique-chimie. La chromatographie.
Ah, ce passage est lunaire.
Mais tellement. Pour rappeler, la chromatographie, c'est ce truc qu'on faisait au collège où on sépare les composants d'un liquide et on analyse le résultat en comparant les couleurs sur un bout de papier.
C'est basé uniquement sur la perception visuelle des couleurs.
Et on impose ça à un élève aveugle, sans aucun support en relief, sans ordi, rien. On l'évalue littéralement sur un capteur physiologique qu'il n'a pas, au lieu de tester s'il a compris la théorie scientifique. Enfin, c'est de la folie. Comment un système peut être aussi aveugle ?
Parce que le système éducatif, comme n'importe quelle énorme administration, il n'est pas fait pour l'individu. Il est fait pour préserver sa propre norme, son propre scénario préétabli.
Donc changer le sujet d'examen pour un seul élève, c'est trop demandé.
Pour la machine, oui. Ça demanderait de remettre en question tout le protocole. Cette rigidité, c'est pas forcément de la méchanceté pure au départ. C'est juste l'inertie monstrueuse d'une administration qui préfère broyer un individu plutôt que de faire une mise à jour de son logiciel.
Et cette inertie, elle devient carrément violente avec l'histoire du chien guide.
Ah, le parcours du combattant.
Mais vraiment, c'est le symbole ultime de l'autonomie, un chien. Ça permet d'aller vite, d'esquiver les obstacles, d'être libre, quoi. Et pourtant, c'est une guerre de tranchées dans le livre.
Complètement.
Le chien est d'abord refusé par la direction de son école. Ensuite, il y a un supermarché qui appelle littéralement la police pour leur interdire d'entrer.
Oui, il doit faire venir les caméras du journal de TF1 juste pour acheter un paquet de pâtes. C'est absurde.
Et l'ironie qui m'a tué, le chien est refusé à l'entrée de la CAF, la Caisse d'allocation familiale, un organisme social qui est obligé d'envoyer son agent faire l'accueil sur le trottoir parce que le chien ne peut pas rentrer. Là, on frise la malveillance active, non ?
Alors, c'est ça qui est intéressant. Le narrateur analyse ça non pas comme de la cruauté intentionnelle, mais comme une injonction paradoxale de la société.
Comment ça ?
D'un côté, on a ce grand discours officiel. Oh, il faut être courageux, il faut être autonome, bravo. Mais dans la vraie vie, l'autonomie du handicap n'est tolérée que si elle est invisible, silencieuse.
Ah, et un chien, ça se voit.
Un chien guide, c'est grand, ça prend de la place dans la rue, ça attire les regards, et surtout, ça prouve de manière indéniable que la personne n'a plus besoin d'être infantilisée ou tenue par la main.
Et ça, ça dérange les bipèdes.
Grave. Ça bouscule le confort des gens qui s'étaient habitués à jouer les sauveurs un peu condescendants, ou pire, ceux qui préféraient juste faire comme si l'handicap n'existait pas.
Donc en gros, la société le punit d'avoir trouvé une solution pour contourner les bugs de son costume. C'est dingue !
C'est exactement ça.
Et face à cette violence, Jean-Philippe il commence à capter que le scénario social entier, c'est juste une gigantesque hypocrise. On le suit pendant ses études à Sciences Po, après dans différents ministères, et la désillusion est brutale.
Très brutale. De l'intérieur, il voit bien que le grand idéal de l'intérêt général, c'est une vaste blague.
Ouais, il décrit l'administration comme un bouclier, c'est ça ?
Si, ça. Le but d'un fonctionnaire dans ce récit, c'est pas d'aider le citoyen sur le terrain. C'est de créer un parapluie hiérarchique. L'énergie globale est dépensée pour étouffer les vrais problèmes et s'assurer que ça ne remonte jamais jusqu'au ministre. On gère pas la réalité, on l'étouffe.
Mais ce qui m'a fait froid dans le dos, c'est que cette hypocrisie, elle touche aussi les milieux qui sont censés soigner, les médecins.
Ah, le passage sur les ophtalmologues.
Ouais. Il raconte que quand la vue d'un patient baisse de façon irréversible, les médecins l'abandonnent avec un glacial. Il n'y a plus rien à faire. Attends, le serment d'Hippocrate, il marche que si on peut faire un miracle. Pourquoi une telle brutalité ?
Parce que la médecine moderne est construite autour de cette idée de victoire sur la maladie. Le médecin, dans sa tête, c'est un réparateur.
Et s'il ne peut pas réparer ?
S'il fait face à une cécité qu'il ne peut pas guérir, il ne voit pas un être humain qui a besoin d'être accompagné dans une nouvelle vie, il voit l'échec de sa propre compétence. Abandonner le patient, c'est fuir le miroir de sa propre impuissance. C'est purement une faille narcissique de l'institution.
Une faille narcissique, c'est glaçant. Et le pire, c'est qu'il retrouve ce même narcissisme chez les militants associatifs et dans le monde de la tech.
Ah oui, le monde du logiciel libre.
Ouais, ces communautés qui passent leur temps à faire de grands discours sur l'inclusion absolue, le code ouvert à tous. Mais quand il s'agit de rendre leur propre logiciel accessible pour un lecteur d'écran d'aveugle, bah, il n'y a plus personne.
C'est le fameux hiatus entre l'ego et le travail de l'ombre, tu vois.
C'est-à-dire ?
Bah, coder une nouvelle fonctionnalité flashy, ça te donne de la gloire sur les forums, en dicter un génie. Mais devoir se taper la structuration du code avec des balises d'accessibilité, invisible, vérifier les contrastes, s'assurer que l'audio suit, c'est un boulot ingrat.
Et ça rapporte aucun like sur GitHub.
Voilà. Les belles valeurs s'effondrent dès qu'il n'y a plus de prestige immédiat à la clé.
Du coup, entre les médecins fuyants, les administrations inutiles et les militants hypocrites, le personnage commence à développer une vision de l'humanité très très sombre.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Il observe les bipèdes et il en conclut que sous nos grands concepts philosophiques, on est juste drivé par quatre pulsions primaires, la nourriture, la reproduction, le territoire et la domination hiérarchique.
Une vision très éthologique, ouais.
Et là, j'avoue, ça devient vraiment intéressant, mais... Est-ce que c'est pas juste une crise de misanthropie d'un jeune adulte? Tu sais, un mécanisme de défense, genre « vous me rejetez, alors je vous méprise tous ».
L'auteur assume totalement cette phase de misanthropie. Mais il faut comprendre d'où elle part. Son handicap, paradoxalement, lui donne une lucidité chirurgicale.
Parce qu'il n'est pas distrait par le visuel.
Exactement. Il ne voit pas les sourires de façade, les beaux costumes ou les postures sociales. Il juge uniquement sur les actes concrets et les intonations. Et ce gouffre énorme entre les beaux discours de la société et la mesquinerie des actions réelles, bah ça devient insoutenable à observer au quotidien.
Donc c'est pas de la haine gratuite, c'est juste de la fatigue.
C'est l'épuisement pur et simple face aux mensonges permanents.
Ouais, sauf qu'on peut pas vivre toute sa vie avec cette rancœur, sinon on s'autodétruit. Il lui fallait un manuel de survie pour pas devenir fou dans cette pièce de théâtre absurde. Et c'est là que le livre prend un tournant génial, parce que sa solution n'est pas technologique, elle est philosophique.
Les stoïcismes.
Voilà. Mais attention, pas le stoïcisme de développement personnel pour manager stressé, là.
Ah non, on parle du vrai stoïcisme d'Épictète, une exigence martiale.
Carrément. Il comprend, en gros, la fameuse dichotomie du contrôle.
Tout à fait. Ford réalise qu'il n'a absolument aucun pouvoir sur le costume défectueux qu'il porte, ni sur la stupidité ou l'hypocrisie des autres acteurs sur scène. La seule et unique chose qu'il contrôle, c'est sa propre réaction, son jugement. Et la précision de son propre jeu d'acteur.
Et ça se traduit par des choix de vie radicaux, comme le minimalisme. Il refuse d'accumuler des trucs, il use ses objets jusqu'à la corde, il porte des vêtements de seconde main, et il refuse catégoriquement d'acheter une maison.
C'est un vrai pied de nez à la société de consommation.
Grave. Dans un monde où posséder, c'est réussir, lui, il choisit la légèreté absolue. Est-ce que c'est une stratégie pour pouvoir quitter la scène plus vite quand le rideau tombera ?
C'est complètement ça. C'est de la logistique émotionnelle. Si tu limites tes ancrages matériels, tu réduis ta surface de vulnérabilité face au coup dur.
Ouais, logique.
Mais là où ça devient très clivant dans le livre, c'est que ce minimalisme, il l'applique aussi aux relations humaines, avec la loi de l'éphémérité.
Ah oui, ce passage m'a perturbée. Il parle d'amitié très intense, comme son groupe d'amis à Paris, Virginie, Benoît, Sophie, ou cet ami réfugié de collège. Des liens très forts. Et puis, la vie fait que ça s'éloigne.
Et il l'accepte sans aucun drame.
C'est ça qui me pose problème. Il dit qu'il ne cherche pas à les retenir. Est-ce que c'est pas une manière de s'isoler préventivement ? À force de dire « tout est éphémère », est-ce qu'il ne se coupe pas de la vraie intimité par peur d'être abandonné ?
C'est le grand risque du stoïcisme, cette ligne fine entre détachement et froideur. Mais lui, il l'explique autrement. Ce n'est pas un refus de l'intimité, c'est le refus de l'illusion de l'éternité.
L'illusion de l'éternité, c'est joli.
Selon lui, l'erreur des bipèdes, c'est d'exiger une loyauté éternelle de leurs amis ou de leurs amours, ce qui crée inévitablement de la possessivité et, à la fin, du ressentiment.
Ah ouais, tu m'appartiens pour toujours.
Voilà, en acceptant d'office que chaque acteur finira par sortir de scène à un moment donné, Jean-Philippe peut maximiser l'instant présent. Il donne tout tant que la personne est là, mais il refuse de se détruire quand elle s'en va. L'affection n'est pas dans la durée pour lui, elle est dans l'intensité de la présence.
Et d'ailleurs, sa présence aux autres prend une forme très active avec ce qu'il appelle sa vocation de servir. Contrairement à l'ermite sur sa montagne, il reste au milieu des gens et il utilise la maïeutique.
La méthode socratique, oui. Poser les bonnes questions pour que les gens trouvent leurs propres solutions.
Surtout dans son boulot sur l'accessibilité. Et son modèle ultime de vertu, c'est pas un philosophe grec à barbe, c'est son ancienne prof de français du collège.
C'est magnifique d'ailleurs. Cette prof incarne le don de soi sans aucun ego. Elle vouvoyait ses petits élèves de collège, ce qui crée un respect dingue, et elle donnait des cours gratuits sur son temps libre, sans jamais demander de médaille à l'institution.
Elle faisait juste son job, parfaitement.
Exactement. Elle ne jouait pas à la sauveuse, elle jouait juste son rôle avec une justesse parfaite. C'est l'antidote au narcissisme médical aux militants qu'il dénonce avant.
Et ce concept de « jouer juste », on en voit l'application chirurgicale dans une des dernières scènes du livre. Le moment où il sépare totalement l'acteur du rôle.
Ah, la confrontation avec le salarié toxique.
Voilà. Jean-Philippe dirige une boîte et il doit négocier le départ d'un type qui est décrit comme un vrai mythomane, hyper nocif, le genre de gars qui détruit émotionnellement les gens autour de lui.
Un prédateur social, en gros.
Et la veille, Jean-Philippe est en panique totale. Il est physiquement ravagé par l'angoisse de ce conflit.
Mais le jour J, il se passe un truc physiologique hallucinant. Le narrateur explique qu'il utilise des techniques de respiration ventrale qu'il a apprises en cours de chant lyrique.
Ouais, il hack son propre corps, en fait.
C'est ça. C'est de la pure anatomie. En forçant une respiration très basse, très lente, il stimule le système nerveux parasympathique. En quelques secondes, il fait chuter son rythme cardiaque et trouve un calme implacable.
Et c'est là que l'analogie de notre casque de réalité virtuelle, elle prend tout son sens. Par cette respiration, c'est comme s'il baissait le volume des dégâts dans les paramètres du jeu.
C'est une excellente image.
Il entre dans la salle de réunion et ce n'est plus Jean-Philippe l'homme angoissé. C'est Ford Prefect, l'acteur alien hyper froid, qui manipule la marionnette Jean-Philippe de l'extérieur.
Et ça marche.
Le salarié toxique hurle, insulte, ment, crache son venin, mais l'acteur ne l'absorbe plus du tout. Il réplique juste avec la bonne intonation, il bloque les attaques méthodiquement.
Il devient totalement inatteignable. C'est la victoire absolue du stoïcisme. Il modifie le scénario de l'intérieur, par la maîtrise technique de son jeu, sans jamais laisser la folie de l'autre entrer dans sa forteresse mentale.
Pour résumer cette maîtrise, j'ai une autre métaphore en tête. C'est comme s'il était devenu un apnéiste, des grandes profondeurs.
Un apnéiste, hein ?
Ouais, tu vois, la société humaine, avec son hypocrisie, ses injonctions sur le handicap, ses bassesses, c'est comme un océan noir et écrasant. Les bipèdes, ils s'y noient ou ils s'y débattent en permanence.
D'accord, je vois.
Eh ben, le stoïcisme, la respiration ventrale, la dissociation, c'est sa bouteille d'oxygène. Ça lui permet de plonger au plus profond, dans les situations les plus toxiques, d'y agir avec une clarté totale sous une pression qui ferait exploser n'importe qui. Et après, il remonte à la surface, tranquille, sans séquelles.
J'adore cette image de la pression. Et c'est crucial de comprendre que cette maîtrise, elle s'accompagne d'un refus total d'être un héros.
Ah oui, le fameux cliché du handicapé inspirant.
Exactement. Le livre souligne que vouloir devenir un héros pour les autres, c'est un piège destructeur. Ça crée un miroir déformant qui renvoie les bipèdes à leur propre lâcheté, ce qui génère de l'arrogance ou de la haine en retour.
Donc on ne cherche pas les applaudissements.
Non, l'ambition, c'est pas de vaincre le handicap pour impressionner la galerie. L'ambition, c'est d'atteindre la modération, la justesse, n'attendre absolument rien des autres et être d'une exigence totale envers son propre jeu d'acteur.
C'est dingue quand on y pense. On est parti d'une planète Terre pulvérisée par des vaisseaux Vogon et on arrive à cette philosophie quasi monacale de l'existence. Ce bouquin, il te force vraiment à repenser tes propres limites. Le vernis de la science-fiction, au final, c'était pas un décor pour faire geek.
Non, c'était un scalpel, un outil pour disséquer la mécanique sociale sans tomber dans le pathos ou les clichés misérabilistes sur le handicap.
Ça nous met face à nos propres illusions. Nos angoisses viennent souvent du fait qu'on s'accroche comme des malades à des scénarios écrits par d'autres.
Et qu'on refuse de voir que le costume qu'on porte est fragile, oui.
Ce qui m'amène à une toute dernière réflexion, si tu veux bien, dans le prolongement de cette histoire de costume. On a passé tout l'épisode, enfin toute cette analyse, à parler de la cécité physique.
L'incapacité de voir la lumière ou les couleurs de la fameuse chromatographie.
Voilà. Mais quand j'écoute le bilan de cette société, ce système éducatif complètement à côté de la plaque, ces ministères terrifiés par le réel, ces médecins lâches et ces amis incapables de présence pure, on est en droit de retourner la question en fait.
C'est-à-dire ?
Et si la véritable cécité, c'était pas un problème de rétine qui marche pas ? Et si la pire des cécités, c'était cette incapacité viscérale de la société à voir au-delà du rôle qu'elle s'est elle-même assigné?
Cécité sociale.
Exactement. Les gens évoluent sur la grande scène du monde en étant tellement obsédés par leur petite image, tellement rigides avec leur texte, qu'ils en oublient carrément la nature du théâtre.
On s'enferme dans le scénario.
C'est ça. Alors que le grand metteur en scène cosmique, là-haut, il attend probablement pas qu'on récite nos répliques par cœur, il attend juste qu'on ait le courage de baisser la garde, de jeter le script et de commencer à improviser tous ensemble.
C'est une belle façon de le voir.
Une petite pensée à laisser résonner, bien après que le rideau soit tombé sur cette histoire.